Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Pas question de se laisser endormir par des concertations. Une dizaine de syndicats et de collectifs de soignants comptent battre le pavé aujourd'hui pour appeler le gouvernement à ses promesses sur l'hôpital en plein Ségur de la santé. Que s'est-il passé avec les masques? Aurait-on pu sauver des vies dans les EHPAD? Le confinement a-t-il été trop tardif? La commission d'enquête qui s'ouvre aujourd'hui devant l'Assemblée nationale entend disséquer les défaillances dans la gestion de la crise du coronavirus.
Et puis, qu'attendre, Catherine, d'une commission d'enquête parlementaire? Eh bien, c'est la question du jour, on la posera à Olivier Beau, il est professeur de droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, directeur adjoint de l'Institut Michel Villet.
Un regain de l'épidémie en Asie fait craindre une deuxième vague. Nous irons en Inde dans ce journal. Le pays a passé la barre des 350 000 contaminations et des 10 000 morts selon les chiffres officiels.
Et puis 2 à 5 ans de prison ferme pour les 6 prévenus dans le volet financier de l'affaire Karachi.
Les anciens proches de l'ex-premier ministre Édouard Balladur ne pouvaient ignorer, selon la justice, l'origine douteuse des fonds versés sur le compte de la campagne présidentielle de 1995 et issus de rétrocommissions illégales. Au plus fort de la crise, ils ont été applaudis aux fenêtres partout en France. En première ligne face à la Covid-19, salués comme des héros en blouse blanche par Emmanuel Macron, qui leur avait promis un plan d'envergure. Médecins, infirmiers et aides-soignants se rappellent aux bons souvenirs du gouvernement aujourd'hui, avec plus de 220 rassemblements prévus de Paris à Montpellier, en passant par Metz, Dunkerque et Bobigny, à l'appel d'une dizaine de syndicats et de collectifs de soignants, alors que le Ségur de la Santé entre dans sa quatrième semaine. Pour l'instant, les discussions n'ont pas vraiment avancé, notamment au sein du groupe de travail qui planche sur la revalorisation des salaires et des carrières. Et c'est l'un des points les plus sensibles pour les soignants, Tarache Legal.
Depuis le départ, les syndicats veulent négocier avec le gouvernement et reprochent à Nicole Nota de n'être, comme elle le dit, que l'animatrice des débats. Elle écoute mais n'a pas de proposition chiffrée dans son escarcelle. Conséquence, vendredi dernier, les organisations ont exigé de voir Olivier Véran, Christophe Prudhomme de la CGT.
Le ministre doit venir avec un plan d'urgence chiffré qui ne peut pas être inférieur à 15 milliards d'euros au regard de ce qui a été proposé pour l'industrie aéronautique. Air France, c'est 40 000 emplois, 7 milliards d'euros pour Air France. Voilà, l'hôpital, les EHPAD, le médico-social, ce sont quasiment 2 millions de salariés qui produisent. Nous ne sommes pas un coût pour la nation, ce secteur.
Un secteur dont les salaires trop peu attractifs doivent augmenter de 300 euros net, martèlent les syndicats, et qui doit embaucher d'urgence. C'est un mot d'ordre commun, mais que le Ségur n'a pas entendu. Le syndicat Sud Solidarité en a donc claqué la porte, comme l'explique son négociateur Christophe Geffray.
On n'est pas parti pour arrêter de négocier, on est parti justement parce qu'on veut négocier. Mais là, en face de nous, on n'a pas des négociateurs. On a des gens qui font comme si on était leurs adjoints à qui on doit fournir des fiches, voyez, pour qu'ils décident. C'est pas des négociations, ça. Nous, on est élus de la République, on représente des personnels, on a des revendications, et en face de nous, on a des gens qui sont censés nous donner les moyens qu'ils ont à mettre sur la table pour faire avancer les choses.
L'heure est donc aujourd'hui à la mobilisation dans la rue.
Et le syndicat national des professionnels infirmiers appelle notamment les citoyens à les soutenir autour du millier d'hôpitaux répartis sur l'ensemble du territoire, à faire pression aussi sur les maires qui président les conseils d'administration des hôpitaux et sur les parlementaires qui votent les budgets pour la santé pour ne plus maintenir des lits fermés ou en fermer d'autres. Emmanuel Macron doit annoncer aujourd'hui, lors d'une visite sur un site du groupe pharmaceutique Sanofi près de Lyon, une initiative pour financer la recherche-développement et la capacité de production de vaccins en France. La visite du chef de l'État intervient juste après l'accord conclu entre 4 pays européens, dont la France, et le groupe AstraZeneca, pour garantir à l'UE 300 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus, et ce, à prix coûtant, sans faire de profit. Ils ont été ministres, ont dirigé des agences sanitaires et des administrations ces derniers mois, mais aussi ces dernières années. Ils vont se succéder dès cet après-midi devant les députés et la commission d'enquête qui s'ouvre au Palais Bourbon pour établir la généalogie et la chronologie de la crise que nous traversons, devant répondre par exemple à des questions sur les masques, sur les EHPAD ou encore sur le confinement. Après une mission d'information, la commission d'enquête accorde désormais des pouvoirs accrus aux députés. Ils pourront demander à leurs interlocuteurs par exemple de fournir des pièces justificatives, 3 à 4 auditions en moyenne par semaine pour ce travail qui devrait durer au moins jusqu'en décembre prochain, Anne Fauquemberg.
La route est longue pour les 32 membres de cette commission d'enquête, présidée par la députée En Marche, Brigitte Bourguignon, et dont l'élu d'opposition, les Républicains Éric Ciotti, est le rapporteur. Aucun parlementaire du Rassemblement national n'en est membre. Pour les non-inscrits, c'est l'ancien député LREM, Joachim Sonforger, qui a été désigné. Mais Brigitte Bourguignon précise que tous ceux qui le souhaitent peuvent être associés aux travaux. Des députés qui vont entendre dans un premier temps les mêmes interlocuteurs que ces dernières semaines lors de la mission d'information qui avait plus que frustré Christian Pancher. Le député du groupe Liberté et Territoires a vécu la crise aux avant-postes dans son département de la Meuse.
Moi, j'ai posé des questions très précises. J'ai pas eu de réponse. Je pense notamment aux commandes de masques, au calendrier de livraison, les bons de commande. J'ai pas eu de réponse. J'ai posé des questions au ministre de l'Intérieur sur le nombre de personnes que l'on expulsait en France, puisqu'il nous expliquait qu'il fallait maintenir ouverts les centres de rétention. J'ai pas eu de réponse. J'ai posé des questions au conseil scientifique. J'ai pas eu de réponse. Notamment, il y a un moment, on me disait que le conseil scientifique, tout le monde n'était pas d'accord sur le confinement complet. Les Français ont besoin des réponses à ce type de questions.
Ce soir, c'est le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui ouvrira la commission d'enquête. Une audition qui s'annonce longue, selon sa présidente, Brigitte Bourguignon. Avant celle, jeudi, du président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Tous les anciens ministres de la Santé passeront également devant les députés, et cela au moins jusqu'à Xavier Bertrand, révèle-t-elle.
Et la France a enregistré 29 décès supplémentaires liés à la Covid-19 hier dans les hôpitaux. 23 patients sont sortis en revanche de réanimation. Ces données confirment la courbe descendante pour les cas les plus sévères depuis le pic atteint début avril. Mais en Guyane, la situation reste toujours critique. Le second tour des élections municipales est d'ailleurs reporté en Guyane en raison de l'épidémie de coronavirus.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. La situation épidémique à Pékin est extrêmement grave.
C'est l'avertissement lancé ce matin par un porte-parole de la mairie alors que plus d'une centaine de personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans la capitale chinoise. Soudain, regain de contagion. Contagion également particulièrement virulente en Inde, dans les grandes villes comme New Delhi qui concentre 12% des cas du pays et où les hôpitaux ont déjà du mal à faire face à la situation. Sébastien Farcy.
Les ambulances entrent en trombe dans Loknayak Jayaprakash, le plus grand hôpital public de New Delhi dédié au Covid-19. Sumita Sampal, un foulard bleu en guise de masque, est inquiète. Cela fait 10 jours que son mari a été hospitalisé, mais il n'a toujours pas les résultats de son test de Covid. Il avait la dengue, mais il suspectait aussi le Covid, dit-elle. Maintenant, il est enfermé dans cet hôpital et il me dit qu'il voit des cadavres de patients abandonnés. Je veux qu'il sorte, car s'il n'a pas déjà le Covid, il va l'attraper. Officiellement, seulement 40% des 2000 lits de l'hôpital sont occupés. Mais cette crise a créé de nouveaux problèmes, reconnaît Ritu Saxena, la coordinatrice de l'hôpital pour le Covid-19. Nous avons besoin de personnel, dit-elle, car avant, les familles des patients s'occupaient de leurs besoins quotidiens. Maintenant, on ne peut pas les laisser entrer, donc nous nous occupons de tout. Pour l'instant, la situation est sous contrôle, mais cela peut vite changer si des milliers arrivent chaque jour, comme on s'y attend. Les autorités estiment que le nombre de cas doublera en 2 semaines dans la capitale et prévoient de convertir des trains, des hôtels et des salles de mariage en hôpitaux de fortune.
Sébastien Farcy, correspondant d'RFI à New Delhi pour France Culture. En France, à présent, les entreprises, elles veulent accélérer leur retour à la normale alors que les écoles rouvrent lundi prochain pour tous les élèves et de manière obligatoire. Les parents devraient donc être disponibles pour aller travailler, estiment les entreprises. Yvan Planteil.
Le protocole sanitaire et ses règles strictes semblent encore freiner la reprise du travail. Pour Benoît Serre, vice-président de la NDRH, l'association des directeurs des ressources humaines, il faut assouplir ces conditions pour envisager un retour.
Les gens se disent à quoi bon venir si on ne peut pas travailler ensemble, si chacun est enfermé dans son bureau, s'il n'y a pas de cantine.
Des négociations sont justement en cours au ministère du Travail pour alléger le protocole. Autre enjeu, tirer les leçons de cette crise, en résumé, proposer plus de télétravail à ceux qui ont aimé le pratiquer. Ce fonctionnaire de la Monnaie de Paris qui veut rester anonyme a été contraint de revenir au bureau. mais il aurait aimé garder une part de travail à distance.
2 heures de voiture, 2-3 heures de dossier que je pourrais faire à la maison. On va mettre 2 heures de présentiel rentable et qu'il reste des bonnes relations avec les gens. Dans mon cas perso, je ferais bien mi-temps présence, mi-temps télétravail pour pas me couper complètement des gens.
Attention, en effet, pour certains syndicats, rien ne remplace la discussion à la machine à café, selon François Omeril, le président de la CFE-CGC.
Ce qu'on appelle la productivité informelle, hein, c'est-à-dire la capacité qu'on a à tout moment sur un dossier parfois un peu complexe, et bien sortir du bureau, d'aller voir un collègue, de lui poser une question. Et ça nous ramène à cette idée que le collectif de travail, il se rassemble aussi autour d'un lieu de travail.
Peu de salariés en télétravail sont d'ailleurs convaincus qu'ils sont plus efficaces à la maison. Ils ne sont que 3 sur 10 dans ce cas, selon une étude de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail.
25 ans après les faits, le tribunal correctionnel de Paris a condamné hier à des peines allant de 2 à 5 ans de prison ferme les 6 prévenus, anciens proches d'Edouard Balladur dans le volet financier de l'affaire Karachi pour leur rôle dans un système de rétrocommission occulte sur des contrats d'armement avec l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Les prévenus ont tous annoncé leur intention de faire appel, mais en attendant, cette décision reste très importante aux yeux d'Olivier Maurice, l'avocat des familles des victimes de l'attentat de Karachi.
Elle confirme ce que nous dénoncions depuis maintenant près de 11 ans, puisque nous sommes à l'origine du dépôt de la plainte ayant permis des investigations sur ce que l'on appelle le volet financier de l'attentat de Karachi. À l'époque, nous expliquions que nous étions en présence d'une affaire d'État et que cette affaire d'État aurait un retentissement particulièrement important. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, nous sommes satisfaits. Ce que nous attendons aussi maintenant, c'est que la Cour de justice de la République puisse se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'ancien Premier ministre, M. Édouard Balladur, et de son ministre de la Défense de l'époque, M. François Léotard, parce qu'il va de soi que la condamnation qui vient d'être rendue avec une motivation extrêmement sévère qui met en cause notamment le défaut de probité de ces hommes qui étaient des serviteurs de l'État, eh bien, doit conduire à aller plus loin dans des responsabilités qui doivent être retenues par la justice.
Olivier Maurice, l'avocat des familles des victimes de l'attentat de Karachi, répondait à Florence Turme. J'ajoute que le volet terroriste de cette affaire est toujours en cours d'instruction. Des centaines de policiers se sont de nouveau rassemblés hier à Paris, Lille ou Nancy pour réclamer des actes forts aux autorités qui ont lâché du lest en annonçant le maintien pendant plusieurs mois encore d'une technique controversée d'interpellation dite clé d'étranglement. On y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce mardi 16 juin, maussade sur la moitié ouest du pays, un peu plus clément à l'est. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 17 et 26 degrés du nord au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.